Alors, imaginez un peu la scène. L'hiver s'installe, le jardin est au repos, la verdure se fait de plus en plus rare.
Oui, on regarde par la fenêtre, sa basse-cour, ses poules, ses lapins, et on se pose une question très concrète. Comment on fait pour continuer à leur offrir une alimentation qui soit riche, naturelle, quand tout semble endormi?
C'est ça. On pense aux granulés, bien sûr, mais si on cherche une solution plus autonome, plus vertueuse.
Exactement. Et c'est précisément ce défi que relève un article très détaillé du site Poulailler Bio. Il nous propose de redécouvrir une ressource précieuse, un peu oubliée, la carotte fourragère.
Ah oui.
Notre mission aujourd'hui, c'est donc de creuser un peu ce document pour comprendre comment ce légume, qui a l'air un peu rustique, peut devenir un vrai pilier de l'alimentation hivernale pour un petit élevage familial. C'est une approche qui s'inscrit parfaitement dans une logique d'autonomie et même, on pourrait dire, de permaculture.
Oui, tout à fait.
L'idée, c'est pas juste de nourrir, c'est de le faire intelligemment, de manière durable. On utilise les ressources de son propre jardin pour boucler le cycle, même pendant la saison froide. Le potager se met vraiment au service de la basse-cour.
Alors, entrons dans le vif du sujet. L'article présente cette carotte un peu comme un super aliment d'hiver pour la basse-cour. Au-delà de l'image, qu'est-ce qui, sur le plan nutritif, la rend si spéciale d'après la source?
L'article met en avant deux choses fondamentales. D'abord, bon, le plus évident, c'est que c'est une bombe d'énergie. Elle est riche en glucides, donc elle fournit le carburant nécessaire aux animaux pour lutter contre le froid.
D'accord.
Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur les micronutriments. L'auteur insiste beaucoup sur cette teneur très élevée en provitamine A et en vitamine C.
Alors, la vitamine C, on connaît bien, c'est un stimulant immunitaire, logique en hiver. Mais la provitamine A, pourquoi c'est si crucial pour une poule ou un lapin en plein mois de janvier?
Bah, c'est le point clé. En été, les animaux la trouvent en abondance dans l'herbe, dans les feuillages verts. C'est essentiel pour la vision, mais aussi pour la santé de la peau, des plumes et surtout pour le système immunitaire.
Ah oui.
En hiver, cet apport, il disparaît. Et la carotte fourragère qu'on a conservée à la cave, elle devient une sorte de capsule de soleil estivale qu'on leur distribue. Elle vient combler une carence qui est vraiment critique à cette saison.
Donc c'est bien plus qu'une simple friandise, c'est un vrai complément de bien-être. Mais l'article ne s'arrête pas là sur le nutritif, n'est-ce pas? Il parle aussi d'aspects très pratiques.
Oui, et c'est ce qui rend la solution viable pour un amateur. La source souligne ce que j'appellerais le duo gagnant, une excellente productivité et une très très bonne conservation.
D'accord. On a donc un légume qui pousse généreusement, qui offre un bon rendement sur une petite surface et qu'on peut ensuite stocker très facilement pour tout l'hiver. Sans cette capacité de conservation, tout l'intérêt s'effondrerait, quoi.
C'est cette combinaison donc. Qualité nutritive et facilité logistique. Exactement. C'est ça qui rend la solution si pertinente. Parfait. La théorie est convaincante. Maintenant, si on veut se lancer, l'article ne parle pas de la carotte fourragère au singulier. Il nous guide vers des variétés bien précises. La première qu'il mentionne a un nom assez poétique, la jaune obtuse du Doubs. Oui, c'est une variété ancienne, très rustique. Comme son nom l'indique, elle donne de grosses racines avec une chair jaune. L'article la décrit comme très productive. Et il y a un détail que l'auteur glisse et que j'aime beaucoup.
Ah.
C'est qu'elle est aussi bonne pour nous. Ce n'est pas une carotte que pour les animaux. On peut très bien en prendre quelques-unes pour la soupe. C'est un légume partagé, en fait.
Je dois avouer que le mot obtuse m'intrigue. Ça a une signification particulière en botanique ou c'est juste pour dire qu'elle n'est pas très pointue?
Ah, c'est exactement ça. En botanique, obtus, ça veut dire que l'extrémité est arrondie et pas pointue, comme une carotte classique. Mais au-delà de l'anecdote, l'article donne une précision technique qui est loin d'être un détail.
Laquelle?
Pour cette variété, il faut une terre profonde, meuble et peu caillouteuse.
Ah, voilà une information cruciale. Ça veut dire que si on a un sol argileux, compact, plein de cailloux, il vaut mieux oublier tout de suite? Ou il y a des astuces?
C'est une excellente question. En fait, l'article nous rappelle implicitement qu'il faut toujours choisir ses cultures en fonction de son sol. Dans une terre difficile, la jaune obtuse du Doubs, elle risque de donner des racines fourchues, petites, déformées.
Donc un rendement décevant.
Voilà, il faudrait soit travailler son sol en profondeur, ajouter du sable, du compost, soit se tourner d'un d'autres variétés plus courtes. Le conseil, c'est vraiment de ne pas lutter contre la nature de son sol.
Bien noté. Passons à la deuxième variété, qui semble être la vraie star de l'article, la blanche à collet vert. L'auteur ne mâche pas ses mots, il la qualifie de meilleure carotte fourragère pour les petits animaux. Et quand on lit la description, on comprend pourquoi. C'est une force de la nature. On part de racines qui peuvent atteindre, dans de bonnes conditions, des dimensions impressionnantes.
C'est-à-dire,
Jusqu'à 50 cm de long et 8 cm de diamètre.
50 cm. Ce n'est plus un légume, c'est presque une arme de dissuasion pour les renards. On imagine la satisfaction de sortir une racine pareille de terre. Et ce nom, à collet vert, d'où ça vient? L'article l'explique bien. Le collet, c'est la partie supérieure de la racine, là où il y a les fans. Chez cette variété, cette partie dépasse du sol en fin de croissance. Et avec la lumière, elle devient verte. C'est un signe qui ne trompe pas.
D'accord. Mais son atout majeur, et l'article insiste vraiment là-dessus, c'est sa capacité de conservation. Elle est exceptionnelle. La source est claire. Elle se conserve de longs mois à la cave ou en silo. C'est cette endurance qui en fait la championne. Et justement, cette capacité à traverser l'hiver, ça ne s'improvise pas. Tout commence bien avant, au moment du semis. J'ai l'impression que l'article est plein de bons conseils là-dessus.
Absolument. Il nous prend par la main. Le semis, déjà, il peut s'étaler de mars jusqu'au début de l'été, donc ça laisse pas mal de flexibilité. Il partage une astuce de jardinier que beaucoup connaissent peut-être, mais qui est fondamentale.
Oui.
Les graines de carottes, c'est minuscule, presque comme de la poussière. C'est très difficile de les semer de façon homogène.
Ah, j'ai déjà essayé, c'est un cauchemar. On se retrouve avec des paquets de 10 plantules au même endroit, et puis plus rien sur 20 cm.
Voilà, exactement. L'astuce de l'article, c'est donc de mélanger ces graines avec du sable fin et sec. Le sable agit comme un agent de lestage, si on veut, et ça permet de semer beaucoup plus régulièrement en ayant la main légère, comme dit joliment l'auteur.
C'est simple, mais ça change tout.
Ça change tout, et ça évite un travail d'éclaircissage beaucoup plus fastidieux après.
D'accord pour le sable. Et il y a d'autres consignes techniques? On ne jette pas juste les graines à la volée, j'imagine.
Non, c'est un protocole assez précis. On sème en ligne, espacée de 30 à 35 cm. On recouvre les graines de seulement 1 ou 2 cm de terre très fine. On tasse un peu, on arrose. Et puis, il y a un avertissement agronomique très important.
Lequel?
Pas d'apport de fumier frais la même année. Ça peut sembler contre-intuitif. On se dit que le fumier, c'est toujours bon.
Oui, on a ce réflexe. Mais un fumier qui n'est pas assez décomposé, il est trop riche en azote. Ça a deux mauvaises conséquences. Ça favorise le feuillage au détriment de la racine. Et surtout, ça fait fourcher la carotte. La racine se divise et c'est tout l'inverse de ce qu'on cherche. C'est fascinant, toutes ces subtilités. Une fois que ça a germé, même avec l'astuce du sable, il faut quand même intervenir un peu. L'article parle de l'éclaircissage.
Oui, étape clé, obligatoire. Quand les jeunes plants ont deux ou trois vraies feuilles, il faut passer le dans le rang et ne laisser qu'un seul plant tous les 8 à 10 cm. Ça peut paraître un peu cruel d'arracher des plants en pleine forme.
Mais c'est pour le bien des autres.
Pour leur laisser la place de grossir. Et ce qui est formidable, et l'article le souligne bien, c'est que ce n'est pas du gaspillage.
Absolument pas. L'auteur précise que ces toutes jeunes racines qu'on retire, avec leurs fans toutes tendres, c'est une excellente friandise pour les lapins et les poules.
Ah, c'est génial! On est dans une logique de zéro déchet en temps réel au potager. Chaque étape, même l'entretien, génère de la nourriture. On ne jette rien. C'est une boucle parfaite. Bon, on a semé, éclairci, les mois ont passé. Vient le grand moment, la récolte. Quand et comment on s'y prend, d'après la source?
Alors, la récolte, c'est 3 à 4 mois après le semis. Donc, pour un semis de printemps, on peut commencer dès juillet et ça peut s'étaler jusqu'au cœur de l'automne, avant les grosses gelées. L'article apporte une nuance intéressante selon le climat.
Et c'est-à-dire?
Dans les régions à hiver doux, on peut simplement les laisser en terre et les arracher au fur et à mesure des besoins. La terre sert de frigo naturel, en quelque sorte. Mais pour ceux qui vivent dans des régions plus froides, où la terre gèle en profondeur, cette option n'est pas possible. C'est là que la stratégie de conservation devient cruciale. C'est là que le silo ou la cave entre en jeu. Et l'article est très pédagogue là-dessus. La première règle d'or, trier impitoyablement avant de stocker. Toutes les racines abîmées, celles qui ont un coup de bêche, qui sont fendues, on les écarte.
On les donne tout de suite.
On les donne immédiatement aux animaux. On ne les stocke pas.
Et pourquoi cette sévérité ?
Parce qu'une seule racine blessée, c'est une porte d'entrée pour la pourriture. Elle peut contaminer tout le lot en quelques semaines. Et la deuxième règle, c'est la surveillance. Il faut de temps en temps inspecter ses réserves et retirer celles qui ont des taches ou des moisissures.
C'est une vraie gestion de stock, en fait.
Oui. Ça montre qu'on ne donne pas les restes abîmés à ces animaux. On leur prépare une réserve de qualité et on la maintient saine.
Cette attention aux détails est remarquable. On a donc nos belles racines saines, bien conservées. Il est temps de passer à la partie gourmande. Comment l'article conseille de les distribuer?
Il distingue bien selon les animaux. Pour les lapins,
c'est la simplicité même. Les fans, si on en a, telles quelles, et les racines, on les coupe juste en grosses rondelles. C'est direct, brut, efficace.
Et pour les poules, j'ai l'impression que c'est un peu plus élaboré.
Ah oui, pour les poules, on entre presque dans le domaine de la cuisine. La méthode la plus simple, c'est de les râper crues et de les mélanger à la pâtée quotidienne.
D'accord.
Mais la source propose une option premium, une vraie recette qui semble faire un tabac au poulailler.
Je suis tout ouïe.
Il s'agit de cuire les carottes à l'eau, de les écraser en purée et de mélanger cette purée avec du son et des grains concassés pour former des sortes de galettes tièdes. Et là, j'adore la phrase de l'auteur qui écrit avec un enthousiasme communicatif.
Oui!
Alors là, c'est la fête au poulailler, elles en sont friandes.
Ah, j'adore cette image. On n'est plus dans la simple nutrition, on est dans la gastronomie pour galinacer. C'est incroyable de penser à ce niveau de soin. On imagine la scène, l'excitation des poules quand elles voient arriver ces galettes en plein hiver.
C'est plus que de la nourriture, c'est un événement, c'est de l'enrichissement. C'est le mot parfait. Et c'est fascinant. On ne cherche pas juste l'efficacité calorique, on cherche le plaisir. Offrir un plat chaud, appétissant, c'est une manière de lutter contre la morosité de l'hiver. Pour elle aussi.
C'est une culture du soin, en fait.
C'est ça, c'est de la zootechnie bienveillante. Zootechnie bienveillante, je retiens l'expression, on boucle up boucle, du jardinage soigné jusqu'à la cuisine pour les animaux. Si on devait synthétiser, l'article nous montre que la carotte fourragère, c'est bien plus qu'un légume. C'est une solution complète, nutritive, productive, économique et qui assure le bien-être de la basse-cour en hiver.
Tout à fait. Et je pense que cette analyse, ça soulève une question plus large, une pensée à garder. Si un légume aussi simple, aussi humble, peut jouer un rôle si central dans l'autonomie d'une petite ferme,
oui.
En créant un lien si vertueux entre le potager et la basse-cour, ça nous interroge forcément. Quelles autres synergies, souvent oubliées, existent entre les différents éléments de notre environnement ? Je pense au dopinambour, à la consoude, à plein d'autres plantes.
Comment les réintégrer ? Voilà. Comment on pourrait les réintégrer pour créer des systèmes encore plus résilients, plus autonomes et où le bien-être de tous, humains comme animaux, est au centre. C'est peut-être ça la prochaine étape de la réflexion.